Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1 ce mercredi 22 mai. Ravie de vous retrouver, Julie, bonjour.
Bonjour Wendy.
Pendant 2 heures, nous sommes ensemble pour faire le tour de la question avec une première préoccupation en débat ou en réflexion, en tout cas les accouchements. Comment naissent nos bébés en France? Comment les femmes accouchent-elles? C'est au cœur d'une semaine que France 5, avec son émission Les Maternelles dédiées à l'accouchement, que nous posons cette question. Dans quelles conditions on accouche aujourd'hui et quelle transition entre la grossesse, l'accouchement, le retour à la maison pour 700 000 femmes chaque année. Je vais vous demander là si vous avez un bon souvenir personnel. C'est une expérience de vie magnifique, mais comment vous êtes-vous sentie prise en charge, mesdames? Comment améliorer éventuellement l'accompagnement des mamans et des bébés dans nos hôpitaux et dans nos cliniques? Eh bien, on vous attend, le standard est ouvert.
Le 49.
Si vous souhaitez.
Non, non.
Mais c'est d'abord
le 39-21. 50 centimes la minute.
Et puis à 10h, chers amis, je vais recevoir l'un des plus grands cinéastes français. Je vous le disais, Palme d'Or à Cannes en 1966. Il était de nouveau sur la croisette 53 ans après Un homme, une femme pour son film qui sort aujourd'hui, Les plus belles années d'une vie. Il est bouleversant, un homme qui dédie sa vie au cinéma et qui aime filmer les hommes et les femmes et pas simplement les acteurs et les actrices. Monsieur Claude Lelouch.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec nos invités pour parler de cette expérience de vie, de la manière dont vous avez vécu, vous mesdames, votre accouchement, vous messieurs aussi, la manière dont vous avez accompagné vos épouses, vos compagnes. Bonjour professeur Jacques Inizard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous éclairer, vous qui êtes gynécologue obstétricien à la maternité de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous sommes également avec Anne-Isabelle Boulogne, sage-femme à l'hôpital Beaujon à Clichy. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Anne-Charlotte Ullmann qui est responsable éditorial à la Boîte Rose.
Bonjour.
Bonjour, c'est le programme qui nous réunit aussi aujourd'hui, programme d'accompagnement des mamans et des futures mamans, avec notamment les coffrets naissance que vous distribuez à un certain nombre de femmes dans les hôpitaux, dans les cliniques.
Oui, tout à fait. Oui. On est partenaire de 70% des maternités en France. Mm-hmm. Et donc, on accompagne les parents sur ce grand moment qu'est la grossesse et la naissance avec plusieurs coffrets, des guides d'information.
Oui.
Et notre site, laboîterose.fr, qui a 500 000 visiteurs par mois.
Oui.
Donc voilà, qui informe en fait ses futurs et jeunes parents.
Alors on a des petits produits que vous distribuez aux mamans de puériculture pour voilà, accueillir bien aussi l'enfant à la maternité et à la maison. Et surtout le lien que vous créez avec les femmes permet d'avoir un retour d'expérience.
Oui,
sur 500
exactement.
000 personnes, 500 000 femmes qui accouchent en l'occurrence chaque année sur 700 000. Elles sont plutôt heureuses de leur accouchement d'après les chiffres qui ressortent de votre grande étude.
Oui, on a 75% hein, des mamans qui ont plutôt bien vécu leur accouchement. Ce chiffre est assez stable. On avait mené une étude aussi sur l'accouchement pour la maison des maternelles il y a 2 ans et c'est à peu près ce même chiffre qui revient.
Oui, voilà. Ça veut dire 25%, pardon de regarder un peu en négatif, professeur Nizar, mais qui vivent plutôt mal leur accouchement. Pour quelles raisons ?
Pour plein de raisons. D'abord parce que l'accouchement ne correspond pas exactement à ce qu'elles anticipaient. Et là, il faut bien comprendre que c'est beaucoup d'inconnus. On imagine, on fantasme, on se fait un film de ce que doit être l'accouchement parfait et on se souhaite tous un accouchement parfait. La réalité, elle peut être très bonne, mais pas correspondre à ce qui était mesuré, attendu. De la même façon qu'on peut s'attendre à ce que ce soit difficile et ça se passe très bien et on peut être déçu parce que ça ne correspond pas exactement à l'environnement. Là, c'était pas la bonne personne qui était là. Donc, c'est pas forcément négatif. Et ça ne veut pas forcément dire que ça s'est mal passé.
Oui, ça ne s'est simplement pas forcément passé comme dans nos rêves. Voilà. Mais voilà. Après, il y a la réalité. Anne-Isabelle Boulogne, vous la connaissez parfaitement pour être sage-femme, je le répète. Avec peut-être une déception sur la manière d'accoucher, recours à la césarienne plutôt qu'accouchement par voie basse, par exemple, il y a des moments où vous n'avez pas le choix et où ces femmes se sentent un petit peu passées à côté d'un accouchement tel qu'elles l'auraient souhaité.
Bien sûr, elles peuvent se sentir un peu dépossédées.
C'est ça.
Mais c'est là où le sens de la préparation à la naissance fait par mes collègues libérales, mm-hmm. et sont très très importantes, quoi.
Oui, ouais. C'est vrai que parfois on se laisse un peu faire ou convaincre parce qu'on est en situation de vulnérabilité, de grande fatigue. Et là, vous devez trouver aussi l'accompagnement psychologique, moral, de rigueur. C'est un rôle qui vous est dévolu de plus en plus aux sages-femmes que vous êtes.
Oui, et puis avec nos collègues obstétriciens, je veux dire, on travaille tous les deux main dans la main en général, dans la plupart du temps, heureusement. Mmh. Voilà, nous nous occupons de la physiologie, nous les sages-femmes, et les obstétriciens s'occupent de la pathologie, et ça se passe très bien dans les maternités.
Il y a quelque chose qui ressort, mais bon, on va voir beaucoup de points de cette étude aujourd'hui sur l'accouchement et les femmes en France. Les mamans trouvent en général que lorsqu'il y a un problème lors de l'accouchement, professeur Nizar, on s'occupe bien de leur bébé, mais on s'occupe moins d'elle, et bien moins d'elle.
Alors ça, ce ressenti, il est réel et il est difficile à gérer parce que c'est tout le ressenti de la prise en charge en urgence. Quand il faut agir, et l'obstétrique c'est une spécialité, c'est une des rares spécialités où il faut agir en minutes ou en secondes. Oui. C'est très différent de la plupart des autres spécialités médicales. Et quand on doit agir en urgence, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de s'asseoir et de discuter, d'échanger. Il faut parfois agir très vite. On a l'impression qu'on fait tout pour le bébé dans l'urgence. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a, c'est pas les moments les plus propices à la discussion avec le conjoint à qui il faut quand même dire deux mots, à la patiente où il faut en dire trois, oui, et à ce bébé qu'il faut faire naître rapidement.
Oui.
Donc c'est difficile, d'où encore une fois, et je pense qu'on va parler de ça essentiellement pendant cette heure, la préparation, la discussion et l'anticipation sur des situations qui, heureusement, n'arrivent pas souvent, mm-hmm, mais qu'elles doivent connaître au cas où elles arrivent.
Oui, l'information, c'est ce qui ressort et ce qui est capital, oui, aussi de cette étude, Anne-Charlotte Ullmann. Si on se posait un instant avant l'accouchement pour expliquer aux femmes que si le cordon est autour du cou du bébé, s'il faut procéder à une épisiotomie, on n'a pas le temps de vous dire en effet tout ça dure l'urgence, mais il suffit d'un clin d'œil pour qu'on comprenne ce qui va arriver à la femme et c'est beaucoup mieux accepté ensuite.
Oui, tout à fait. Hein. Plus il y a d'informations, mieux c'est vécu. C'est comme... pour l'accouchement, pour le baby blues, si les femmes sont informées du baby blues, elles le vivent beaucoup mieux. On avait fait une étude aussi sur ce sujet-là. Après, encore faut-il que les femmes se préparent. Là, mm-hmm, cette étude a montré qu'une femme sur deux choisit de faire une préparation à la naissance. On était très étonnés de ce chiffre.
Oui,
ça
c'est
nous semble
peu,
vraiment peu.
C'est peu, oui. Parce que peut-être que les cours correspondent moins aussi aux attentes aujourd'hui, qu'on s'informe quasi exclusivement sur Internet d'ailleurs, hein, 70%
exactement,
des femmes.
Tout à fait, oui, c'est ce qu'on a vu aussi.
Ça veut dire peut-être qu'il faut aussi un peu repenser
à égalité, en fait, avec
ces cours de préparation.
Oui, tout à fait. Après, elles ne sont pas très très au fait des préparations qui ne sont pas classiques, type, enfin moins classiques, type sophro, préparation à l'accouchement physio, tout ça, elles sont moins au fait de ça. Elles suivent en majorité une préparation, pour celles qui suivent une préparation classique,
oui,
avec, en maternité ou avec une sage-femme libérale.
Alors voilà, qu'il y a beaucoup de choses, en effet, beaucoup de sciences qui peuvent accompagner aujourd'hui l'accouchement. Hein, parler de la sophrologie...
Énormément.
Oui.
Énormément. Mais moi, je vois dans ma maternité, j'ai quasiment plus de...
À Beaujon.
Préparation, mmh, d'accouchement, j'ai plus qu'une journée. Mais on envoie tout à nos collègues en ville, mmh, qui les préparent très bien, et ce qui est parfait, parce que quand elles sortent précocement, nos collègues prennent le relais.
Voilà, c'est donc ça qu'il faut créer, c'est cette chaîne de solidarité, voilà, aussi, entre sages-femmes à l'hôpital et sages-femmes libérales, par exemple.
C'est ce maillage avec, avec nos collègues de ville.
Alors, n'hésitez pas à nous parler de votre quotidien, mesdames ici en studio, professeurs, mais aussi au 3921, au standard, on vous attend pour vos témoignages. Mesdames, qu'est-ce qui a le plus compté pour vous lors de cet accouchement? À côté de quoi vous êtes éventuellement passé? N'hésitez pas à témoigner parce que ça va nous faire aussi progresser. Et vous nous direz, professeur, juste après la pause, ce qui a le plus changé pour vous ces 20 dernières années autour de l'accouchement. Justement, comment naissent les bébés en France? C'est le tour de la question ce matin, Julie, jusqu'à 10h.
Et le tour de la question, c'est avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
De l'accouchement au retour à la maison, on fait le tour de la question jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard.
Hey, professeur Nizar, vous avez 4 femmes autour de vous et autant d'expérience déjà d'accouchement. Mesdames au standard, n'hésitez pas à réagir parce que nous avons toutes, pour celles qui sont mamans, un souvenir très particulier, très fort, évidemment bouleversant de l'accouchement, mais peut-être éventuellement suivi de complications ou de désagréments. Professeur Nizar, qu'est-ce qui a changé le plus ces 20 dernières années autour de l'accouchement, pour recommencer cette réflexion?
Alors, il y a un aspect professionnel et un aspect personnel. Les deux aspects ont beaucoup changé. L'aspect professionnel, c'est qu'on a édité, nous, professionnels, des recommandations de bonnes pratiques. Donc la France s'est mise à écrire ses recommandations de bonnes pratiques qui sont basées sur les données scientifiques et qui sont des lignes conductrices qu'on doit suivre pour que ça se passe au mieux. Et ça, ça a énormément...
Là, vous parlez du côté des obstétriciens.
Non, de toute la profession médicale. Ces lignes de bonne conduite sont sur l'accouchement, sur la gestion médicale de l'accouchement. Donc ça va inclure les sages-femmes, les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, les anesthésistes. Tout le monde se met tous autour d'une table à l'échelle nationale et on édite des lignes de bonne conduite. Donc ça a standardisé notre façon de travailler. Ça a mis en avant des points importants comme l'analgésie, comme la sepsie, comme plein de règles, l'accueil du bébé. Toutes ces considérations où chacun faisait un peu à sa sauce avant.
Il y a un protocole maintenant.
Voilà, comme dans tous les pays, hein, c'est pas très original, comme dans tous les pays. Mmh. Donc ça, c'est l'aspect médical. Et puis, il y a l'aspect personnel où maintenant, le suivi de la grossesse est quand même un moment d'échange. On essaye d'écouter la patiente. La patiente, il faut qu'elle s'exprime aussi, parce que de temps en temps, il y a des patientes qui sortent de la consultation et après, on reçoit par la secrétaire ou par email plein de questions qu'elles n'ont pas osé poser. Donc, la consultation, c'est un moment d'échange. On pose des questions, on informe, on renseigne sur ce qui va se passer. Et ça a beaucoup changé, parce que d'abord, on a des patientes qui nous challenge un peu. Ce qui est compliqué, c'est quand elles arrivent avec des informations dont les sources ne sont pas tout à fait justes, il faut redresser la barre, ça prend du temps, on n'a pas toujours tout ce temps-là en consultation. Mais il faut être honnête, en France, on a 15 consultations pendant la grossesse.
Oui.
On a quand même un suivi qui est intense, on va avoir plein de spécialistes, on va avoir des gens qui vont faire des échographies, des sages-femmes qui vont faire la préparation, l'information, on a parfois la visite de la maternité, on a les consultations avec la personne qui fait le suivi de grossesse, on a le postpartum, on a quand même une montagne de consultations avec des spécialistes, on devrait arriver à communiquer et à échanger correctement.
Sachant que 4 femmes sur 5 veulent un accouchement classique, Anne-Charlotte Ullmann, c'est-à-dire d'une maternité qu'elles ont plutôt choisi pour des raisons de proximité, avant de choisir éventuellement le gynécologue obstétricien. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait éventuellement changer, justement, dans la préparation. C'est-à-dire que la proximité, c'est un critère très important, mais peut-être choisir davantage l'équipe qui va nous accompagner là aussi.
Oui, mais dans les faits, ça, c'est pas vraiment possible, à part dans les grandes villes, en fait.
Hein. Oui, grande disparité.
On voit qu'à Paris, la majorité des femmes vivent à moins de 20 minutes de leur maternité, en tout cas choisie. On a la possibilité en ville de choisir une structure sur son niveau d'équipement ou son niveau d'accompagnement.
Oui.
Mais quand on voit qu'en Bourgogne-Franche-Comté, 17% des femmes vivent à plus de 40 minutes de la maternité la plus proche, c'est compliqué. On prend ce qu'il y a de plus proche, pas forcément ce qu'il y a de plus accompagnant.
Ce qui a changé aussi.
On prend aussi la maternité où accouche votre gynéco qui vous a suivi pendant toute la grossesse.
Exactement.
Moi, je voulais un certain endroit dans Paris, mais non, j'ai dû aller là où.
Oui, mais c'est lui qui vous a accouché en l'occurrence.
C'est elle, oui.
Oui, c'est elle. Le jour J, c'est ça. Après, parce que le gynécologue.
Ça a beaucoup changé aussi parce qu'il y a de moins en moins d'accouchements privés comme on l'entendait avant.
C'est-à-dire?
Comme on voit là dans l'étude, là, on est à 30% d'accouchements en privé.
20%
en clinique, vous voulez dire. D'accord.
C'était écrit en privé, donc je ne sais pas si c'est privé ou clinique parce que c'est différent.
Oui, les femmes accouchent pour 70% dans une maternité publique.
Voilà.
Par contre, elles choisissent leur maternité à 19% à cause du gynécologue.
Voilà, exactement.
Accoucheur.
Donc, on est dans une offre de soins et une demande aussi de soins qui ne soient pas forcément individualisés sur la personne, choisir exactement la personne, mais plutôt l'équipe, la structure. Et l'enjeu d'une médecine moderne, c'est qu'on puisse accoucher près de chez soi quand il n'y a aucune raison d'aller ailleurs, mais qu'on identifie bien les patientes qui ont besoin d'une structure spécialisée, que ce soit pour la maman, le bébé ou les deux. Et nous, notre enjeu, c'est d'arriver justement à faire ce dépistage au cours de la grossesse. Encore une fois, on a toutes ces consultations pour que les patientes arrivent au bon endroit. Si le bon endroit, ça peut être n'importe où et donc à côté de chez elles, tant mieux. Si le bon endroit, c'est loin, il faut qu'elle aille loin.
Sachant que ce qui a changé aussi en 20 ans, professeur et Anne-Isabelle Boulogne, c'est que la moitié des maternités ont fermé et qu'aujourd'hui, vous travaillez avec autant de femmes. Il y a presque 2 enfants par femme aujourd'hui, 700 000 naissances par an. Et donc, j'imagine un roulement qui est plus important, des femmes qui restent moins longtemps aussi à l'hôpital.
Oui, effectivement.
Faute de place, faute de lit.
Non, pas forcément.
Non.
Mais vous savez que le nerf de la guerre, ce sont les lits à l'hôpital. Et quand on prépare bien une patiente et qu'elle a sa sage-femme qui l'attend en suite de couche à la maison, ou qu'on a aussi le Prado, c'est la sécurité sociale qui a mis en route ça, et bien les patientes peuvent sortir sans pathologie quand elles ont accouché normalement,
au bout de 3
à
jours,
J2 ou à C3, au troisième jour de
c'est
césarienne.
C'est ça, 2 ou 3 jours.
Oui, si le pédiatre est d'accord, il nous donne le feu vert, sans souci.
Voilà,
accompagné.
C3, c'est-à-dire césarienne, au bout de 3 jours, on sort.
Oui.
On a du mal à marcher souvent. Hein.
Mais ça a beaucoup
quand
changé.
Quand on renvoie à la maison, c'est pas évident.
Non,
hein.
Les techniques, mais je pense que...
Ça a beaucoup changé. On voit les patientes maintenant, quand tout se passe bien, les patientes...
Dans les couloirs, on voit quand même celles qui ont accouché par césarienne, parce qu'elles marchent perpendiculaire, les pauvres.
Mais normalement,
on apprend à marcher.
C'est parce qu'elles sont debout le jour même.
Ah, c'est ça,
parce que maintenant, c'est fini. On arrive dans... Quand tout s'est bien passé. On arrive dans sa chambre, on n'a plus la sonde vésicale, on n'a plus la perfusion, et on vous dit, on vous sert un plateau, on vous dit debout. Maintenant, il faut s'occuper de votre bébé. Et en fait, c'est tout dans l'attitude. Les techniques d'analgésie et les protocoles d'analgésie de nos collègues anesthésistes ont fait énormément changer les choses. Et on a des patientes qui sont dans le couloir, réjouies à pousser leur petit bébé dans leur petit berceau transparent. Ça a beaucoup changé. Moi, j'ai vécu ça depuis que je suis interne. J'ai vécu ce changement.
Oui.
C'est une révolution. Les femmes restaient allongées. Il fallait attendre qu'elles reprennent leur transit. Elles ne pouvaient pas manger, elles ne pouvaient pas boire.
C'était ça.
Mais oui, exactement. Mais c'est presque de l'emprisonnement à l'hôpital. Ouais. Et je vais te prendre du recul sur les durées d'hospitalisation. En France, on reste un des pays où on reste hospitalisé le plus longtemps en Europe.
Absolument.
La plupart des pays sont passés à des délais beaucoup plus courts, avec bien sûr ce relais à la maison. Mais on voit très bien que quand on restait une semaine pour un accouchement normal où tout le monde allait bien, maman et bébé, on se dit maintenant, mais une semaine, qu'est-ce qu'on faisait pendant une semaine à l'hôpital ? Et maintenant, on est à 3 jours quand tout se passe bien. Et je suis sûr que dans quelques années, on se dira, mais 3 jours, qu'est-ce qu'on faisait à l'hôpital ?
À la cour d'Angleterre, elles sortent
au bout de 12 heures,
les Anglaises. C'est important pour elles de faire comme les autres Anglaises. Et c'est l'image qui est importante.
Ah, donc c'est pas propre à la royauté.
Mais non, c'est ça. Elles le font comme les autres et c'est l'image qu'elles donnent à leur population. Nous aussi, on est
donc
comme
Rachida
vous.
Donc Rachida Dati est un peu anglaise finalement.
Nous, on n'a pas d'avis défavorable sur le séjour de la maternité. Hein. Les mamans sont plutôt satisfaites. On a un séjour idéal à peu près à 3-4 jours,
oui.
Et elles ne sont pas du tout mécontentes
de ce temps de séjour. C'est le saut dans le vide quand même, quand on arrive à la maison
pour
3
jours. Ah mais non, ce n'est pas le vide,
justement. Vous allez nous expliquer parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
L'idée, c'est que ce ne soit pas le vide.
L'idée, voilà. Mais le ressenti, ce n'est pas tout à fait celui-là. Stéphanie, Valérie sont avec nous au standard. Plutôt des souvenirs un peu mitigés, on va dire, sur le sujet. Ainsi que Nathalie et un homme, Sylvain, qui arrive à tout de suite sur Europe 1.
L'accouchement, une expérience de vie dont nous parlons avec Wendy Bouchard et ses invités.
Oui, ils sont là pour vous éclairer et pour répondre à vos questions, vos témoignages très très nombreux. Ils arrivent tous au standard. Professeur Jacqueline Izard, gynécologue obstétricien à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Anne-Isabelle Boulogne, sage-femme à l'hôpital Beaujon à Clichy. Et Anne-Charlotte Ullmann dans le cadre de ce programme d'accompagnement des mamans et des futures mamans. La boîte rose qu'on vous distribue dans 70% des maternités partenaires. Avec donc vos ressentis et vos souvenirs. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour.
Merci de prendre la parole sur l'antenne d'Europe 1 pour nous parler de la naissance de vos jumeaux, je crois. On est en quelle année ?
Oui, en 2001.
D'accord. Quel souvenir gardez-vous de cet accouchement ?
Alors en fait, un souvenir, il n'y a pas eu souffrance de choses comme ça. Mes garçons sont nés à terme, j'ai eu grossesse tout à fait normale, ça a même été déclenché. Mais c'était plus, si vous voulez, arriver. Donc c'était à l'hôpital en région parisienne, parce que pour des jumeaux, vous ne pouviez pas accoucher en clinique.
Oui.
Et en fait, si vous voulez, c'était plus le ressenti d'être, de pas exister, d'être transparente. Parce qu'en fait, du moment où je suis rentrée donc à la maternité, bon, je suis allée, vous attendez que les bébés arrivent. Mais finalement, il y a des médecins. Je suis après, c'était des médecins qui défilaient pour voir où j'en étais par rapport à l'accouchement. Et c'est-à-dire, si vous voulez, rentrer, ils parlaient pas, ils se présentaient pas. Ils avaient un acte, j'imagine que vous voyez de quoi je veux parler, pour voir où en était l'ouverture, si vous voulez, et repartaient. Et donc, le premier, je me suis dit, mais les gens ne se présentent pas, je ne sais pas ce qui se passe. Comme c'est un univers que je ne connaissais pas, c'est mes premiers enfants, on se laisse prendre en charge, en fait. Et j'ai essayé de lire sur leur blouse, mais souvent les noms sont un peu délavés, etc. Et puis, il y en a eu trois, comme ça, parce que moi, je suis rentrée à 7h le matin, les enfants sont nés à 18h, finalement, par césarienne.
Oui.
Et donc, ça a été défilé. Et puis, à un moment donné, il y a aussi un autre monsieur qui est rentré, il me dit, allez, on se tourne. Alors, je ne savais pas, je lui dis, voulez-vous me tourner comment ? Bah, montrez-moi votre dos. Et en fait, il m'a fait la péridurale, sans que je sache ce que c'était, ni qu'il me le dise. Donc, j'ai dit, mais ça pique. Il me dit, bah oui, c'est la péridurale. Enfin, vous voyez, c'était un peu un sketch.
Ah, c'est fou, ça.
C'était vraiment étrange. Donc, je découvrais,
oui,
au fur et à mesure, les choses. Et donc, bon, ensuite, il y a eu effectivement, on m'a dit, on va faire une césarienne. J'ai dit, bah, ok, très bien. Donc, la césarienne se passe. Et après, alors, c'était le 20 décembre 2001. Donc, vacances de Noël, j'imagine, plus les 35 heures. Il y avait une ambiance très bizarre, si vous voulez, en salle de réveil, les gens se disputaient parce qu'il n'y avait pas de brancardier pour me remonter. Donc j'entendais que les personnes parlaient entre elles en disant « oui, son mari veut descendre la chercher, ça fait des heures qu'elle est en bas, Enfin, bon, c'est une infirmière, je pense, une dame qui m'a remonté, mais elle ne savait pas manier le lit.
Vous êtes sentie vraiment ballottée, Valérie, si je comprends bien, par un personnel qui n'était pas, pour le coup, là, très à l'écoute.
J'ai dit, c'était pas, ouais. C'est comme s'ils prenaient un lit vide, quoi. Si vous voulez, c'est les gens ne vous parlaient pas. Alors, les gens n'étaient pas ni agressifs ou quoi que ce soit. Mais il y avait une ambiance très particulière. Et jusqu'à la fin, ou si vous voulez, le jour de moi, je suis sortie au bout de 3 jours, j'ai dit, je préfère rester chez moi. Parce que bon, pour qu'on prenne les bébés la nuit, vous comprenez, on n'est pas nombreux. J'ai dit, ouais, mais enfin bon, moi, la première nuit, c'est sympa. Donc, le lendemain, à 6h, au changement de personnel, je les revois, ils ouvraient la porte, ils allumaient la lumière et ils déroulaient les lits vers moi. Mais je leur disais, amenez-les jusqu'à moi, parce que je ne peux pas me lever. Enfin, vous savez, bien sûr... Tu fais de la césarienne. Enfin,
oui, je vais vous faire réagir ici en studio à ce côté, un petit peu esselé de Valérie qui a vécu évidemment un moment magique avec cet accouchement, mais aussi des allées-venues un peu perturbantes, professeur Nisa.
Oui, alors,
ça peut arriver, malheureusement.
Oui, bien sûr, et tout ce qui est décrit, on a connu. Pas forcément chez la même personne en même temps, mais chacune des mauvaises expériences, des problèmes de dysfonctionnement, des problèmes de personnel, des problèmes de matériel, on a tous connu. L'accouchement de jumeaux, cela dit, ça reste un accouchement très médicalisé parce que ça peut potentiellement être beaucoup plus compliqué que 2 accouchements d'un seul bébé. Hein.
D'accord.
L'accouchement des jumeaux, il y a du monde. On essaie de préparer les patientes en leur disant vous allez voir beaucoup de monde en salle de naissance.
C'est pas forcément par césarienne, l'accouchement
des
jumeaux.
Non, c'est pas forcément par césarienne, ça peut être par les voies naturelles, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de monde.
Oui.
Après, ce que j'entends d'il y a 18 ans qui s'est amélioré, c'est jamais parfait, mais qui s'est amélioré, j'espère que les gens se présentent, donnent leur nom, leur titre et pourquoi ils sont là. J'espère que ces choses-là s'améliorent. J'entends que c'est jamais parfait, mais franchement, je peux vous dire que dans toutes les équipes, on travaille là-dessus. Mmh. Après, ce sont des grandes équipes, les gens se renouvellent, il y a toujours des nouveaux qui arrivent, il y a toujours des remplaçants, on a des intérimaires qui ne connaissent pas les locaux. Mais dans ces cas-là,
il faut faire remonter les informations.
On essaye, alors on demande aux patientes d'écrire, parce que c'est plus facile pour nous de travailler quand elles nous écrivent un rapport, un document. Maintenant, il faut aussi qu'elles nous écrivent quand ça se passe bien, parce qu'on est sûr que ça se passe bien la plupart du temps quand même.
Bien sûr, merci Valérie pour votre témoignage. Cécilia nous écrit, j'ai choisi de faire 50 minutes pour aller dans une maternité belge pour accoucher. Je savais que là-bas, on me proposerait un accouchement dans l'eau, avec des équipes très respectueuses, ce qu'aucune maternité ne me proposait en France. Ça fait partie des projets de naissance. Combien, finalement, de femmes choisissent ces accouchements très nature, ou dans l'eau en particulier ?
Alors, c'est assez peu, hein, finalement. Sur les accouchements, par exemple, les positions, le choix d'accoucher, pas en position gynécologique, on est à peu près à 15%.
C'est-à-dire pas les jambes écartées sur le
voilà,
dos, mais
sur les accroupies, comment on est là?
Mais en fait, je pense qu'il y a des femmes qui souhaitent être actives durant leur accouchement et qui veulent le préciser.
Donc, accroupies, à 4 pattes, c'est possible. Mais on peut demander ça dans n'importe quelle maternité. Oui, et vous vous adaptez.
C'est bizarre, c'est bestial.
Bah oui, mais c'est le plus naturel possible.
C'est le plus naturel, c'est ça.
Vous trouvez pas?
Vous voyez comme c'est difficile. Notre métier, quand certaines disent c'est exactement ce que je veux, et quand d'autres disent mais c'est bestial, pourquoi est-ce
qu'on
fait
ça? Nous sommes des mammifères, cher Jumat.
C'est compliqué.
Oui, mais c'est dans le sens
comment
de la
satisfaire
gravité,
les gens quand tout le monde veut quelque chose de différent?
Mais aussi, quand même. Ce qui est vrai, c'est que c'est la position physiologique, la moins douloureuse. Hein.
Oui.
La position physiologique, c'est celle où elle est confortable, et nous aussi, on peut travailler en voyant ce qu'on fait. Mais après, c'est toute une question de confort. Dans l'analyse de vos données, il y a tout ce qui est sur la salle nature.
La salle nature,
c'est une salle où on va plus volontiers orienter les patientes qui veulent pas de péridurale, qui veulent le moins d'intervention médicale. Je pense que nous, professionnels, on s'est un peu perdus avec cette appellation salle nature. Je pense que l'accompagnement physiologique, le plus physiologique possible, peut se faire quelle que soit la salle. Et c'est pas la salle qui fait la qualité de l'accouchement ou la physiologie,
en fait.
C'est l'équipe, c'est la discussion entre les patientes, le couple et l'équipe, et que c'est pas la salle qui fait la différence.
Alors que 3 femmes sur 4 ont déclaré vouloir accoucher sous péridurale, on va parler de ces accouchements que vous trouvez peut-être trop médicalisés, donc il y en a certains qui prennent les chemins de traverse, certaines. Stéphanie et Sylvain veulent réagir au 39-21, à tout de suite sur Europe 1.
On est en pleine discussion sur l'accouchement avec nos diverses expériences autour de la table.
Oui.
Et on vous a posé une question sur Facebook pour notre consultation quotidienne. Selon vous, les femmes, en 2019, sont-elles bien accompagnées lors de leurs accouchements ?
oui à 72%. Voilà c'est rassurant. Hein, voilà. Mesdames, messieurs.
Un taux qui va vous réjouir en effet. Vous nous donnerez quelques témoignages d'ailleurs, Julie, dans un instant, avant d'accueillir Sylvain et Stéphanie. Anne-Isabelle Boulogne, vous qui êtes sage-femme à la maternité de l'hôpital Beaujon à Clichy. On parle depuis tout à l'heure de projet de naissance, c'est-à-dire pour être plus en phase avec son accouchement, plus satisfaite de son accouchement, il faut savoir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas, et il faut savoir le dire.
Exactement.
À qui et qu'est-ce qu'on dit en l'occurrence ?
Eh bien, en fait, pendant la grossesse, on peut rédiger ce que l'on voudrait, en fait, le jour de son accouchement.
L'accouchement idéal, quoi.
Voilà, l'accouchement idéal, ou pas forcément, mais au moins nous exprimer nos souhaits. Et ça, nous, les sages-femmes, nous revoyons les patientes avec le projet de naissance et nous voyons point par point ce qu'elles demandent.
Par exemple ?
Bah, par exemple, je ne veux pas d'épisiotomie.
Alors, une épisiotomie, il faut nous expliquer ce que c'est ?
On coupe un petit peu le périnée.
Oui, pour laisser,
passer le bébé pour qu'il ait plus de place.
Oui, il s'avère qu'on peut parler, on en parlera, de ces violences obstétricales. Un certain nombre de femmes disent quasiment avoir été mutilées, de s'être aperçues de ces violences après l'accouchement, une fois qu'elles étaient remontées dans leur chambre. Le gynécologue ne pouvait probablement pas faire autrement. C'est le gynécologue ou c'est la sage-femme qui peut faire ce geste ? Les deux. Mais le fait est que tous les gynécologues n'avertissent pas de ce qu'ils font en temps réel et que la maman parfois découvre ce qui lui est arrivé.
Alors ça peut arriver, mais vous savez, c'est toujours le problème. Nous, l'obstétrique, parfois c'est en pleine urgence.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà, une patiente qui arrive à dilatation complète, qui est en train de pousser, et il faut se dépêcher parce qu'on n'a pas de rythme cardiaque fœtal, parce que le bébé est en souffrance, il faut y aller très vite.
Très bien.
Quand on a le temps d'expliquer, on le fait.
Mais il vaut mieux l'expliquer avant.
Il faut mieux l'expliquer avant. On a, bah, oui, puis on n'est pas du tout dans l'émotion. On voit avec elle. Quand une patiente m'écrit « je ne veux pas d'épisiotomie », elle a le droit de l'écrire. Elle doit l'écrire quand elle ne le veut pas. C'est son corps. Et moi, en tant que professionnelle, je dois l'écouter.
Oui.
Il faut que je l'entende.
Mais en situation d'urgence, vous êtes en droit de lui dire « maintenant, on n'a pas le choix ».
Oui, maintenant, on n'a pas le choix. Mais on en a parlé. Voilà, on informe. Et ça, c'est vraiment important.
Stéphanie, vous êtes avec nous depuis Versailles au 39-21, sage-femme libérale, voilà, dont parlait Anne-Isabelle comme collègue, en disant le maillage essentiel entre vous, sage-femme libérale, et sage-femme d'hôpital ou de clinique. Bonjour. Vous êtes là, Stéphanie ? Allô, est-ce que vous êtes là, Stéphanie, de Versailles au 39-21 ? Non, mais on va rappeler Stéphanie. Nous avons Sylvain en attendant. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
Merci, monsieur, de nous appeler de Cholet, parce que c'est vrai que nous avons formulé les questions vraiment autour des femmes, mais ne pas oublier la présence très importante du conjoint, de la conjointe. Ah, oui. Combien de papas ou de conjoints assistent à ces accouchements ?
Alors, les mamans nous ont dit vouloir à 98% leur conjoint le jour de l'accouchement, et on a 71% des conjoints qui sont vraiment acteurs dans la préparation à la naissance.
Ah bon.
Donc c'est un chiffre qui est très très important.
C'était votre cas, cher Sylvain ?
Oui, alors moi le premier accouchement auquel j'ai participé, c'était celui de ma mère d'accueil aux États-Unis quand j'étais au pair.
Oui.
Et là, on parlait beaucoup de l'accouchement avec la maman, le papa, et après aussi, on considérait beaucoup le pair. Et une fois que ça a été mon tour en tant que pair, là, plus rien. Pendant, après, moi j'en ai même fait des petites psychoses parce que je n'étais pas du tout considérée dans mon rôle de père.
Vous ne vous êtes pas sentie associée ?
Ah, pas du tout.
Mais par exemple, vous avez fait les cours de préparation avec votre épouse ?
Oui, 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 j'ai suivi comme un bon élève, j'y suis allée.
Oui, et bah alors mais le tandem existe en général.
Oui, 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 non mais moi j'ai participé, j'y suis allée, mais c'est vrai que quand lors de l'accouchement, c'est normal qu'on donne la priorité à la maman, bien sûr. Mais je veux dire, dans l'ensemble, à aucun moment on m'a demandé comment moi je me sentais, ni pendant, ni après. C'est-à-dire, après l'accouchement, moi je me suis senti très très responsable. C'est un bouleversement.
Mais vous auriez souhaité que les équipes médicales soient un peu plus aussi dans l'attention.
C'est mon docteur qui m'a dit que je faisais une sorte de papa blues, quelque chose comme ça. Et puis dans l'entourage, on ne parlait pas de comment je ressentais la naissance de mon fils.
Anne-Isabelle peut vous répondre comme sage-femme peut-être, parce qu'évidemment vous avez affaire avec avec les conjoints.
Alors oui, c'est vrai, mais et c'est très intéressant votre discours, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup du papa. On est très très axé sur la maman et le bébé. Mais il y a beaucoup de choses qui changent actuellement. Je vois dans ma maternité, on a 6 lits accompagnants pour les papas, pour qu'ils puissent rester la nuit avec leur femme.
Oui, à Beaujon, dans le Haut-Seine.
Voilà. Donc, on essaye vraiment. La semaine dernière, on a une maman qui a été transférée dans un autre établissement. Le papa est resté s'occuper du bébé. Alors, c'est vrai qu'on l'a beaucoup coucouné parce qu'il était tout seul et qu'il a pris des responsabilités un petit peu plus importantes. Mais c'est une vraie situation, effectivement, qui mérite qu'on puisse travailler encore plus autour de la naissance.
Encore davantage. Merci, Sylvain. Vous êtes rejoint par Philippe. Philippe Joncourt, pour qui tout s'est bien passé. En revanche, sa compagne a bénéficié d'une maison post-natale et chouchoutée pendant 10 jours, ce qui nous a permis une bonne transition et éviter le fameux saut dans le vide. Une maison post-natale, qu'est-ce que c'est, Anne-Charlotte Ullmann et professeur Nizar? C'est une maison d'accompagnement.
C'est pas en France, si?
Si, j'ai l'impression.
Non, parce que ça existe. Les maisons post-natales existent dans certains pays.
Peut-être en Belgique.
Parfois, elles sont proposées d'emblée. Parfois, c'est au choix de la patiente. Là, hier, je voyais une patiente qui est allée accoucher à Taïwan parce qu'elle est de là-bas et qu'elle voulait accoucher dans son environnement culturel. Et elle a choisi la maison post-natale et dans laquelle elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Après, c'était assez frais.
D'accord. Oui. Colombe de Saussignac nous dit « Je suis une maman de 6 enfants. Bien, j'ai accouché 4 fois à la maison avec un suivi sur Bordeaux. L'accouchement à domicile a vraiment été une expérience d'accueil du bébé. Ça se pratique encore beaucoup selon vos chiffres ?»
Nous, c'est vraiment très anecdotique. Oui. Hein.
C'est de l'ordre
ça ressort quasiment pas sur nos chiffres. Là.
D'accord.
Ce qui ressort plus, c'est le souhait d'accouchement en salle nature, dans l'eau, mais l'accouchement à domicile ressort très très peu.
Oui, qui doit être très accompagné pour le coup,
oui,
parce que c'est
à domicile,
jamais à domicile.
C'est une réalité, il y en a très peu. Il faut bien sûr différencier les accouchements à domicile programmés des accouchements à domicile inopinés.
Oui,
bien sûr, ça c'est encore autre chose. Oui. Mais l'accouchement à domicile programmé, c'est quelque chose qui arrive très peu. Il y a certaines sages-femmes qui le pratiquent. Après, on a vraiment besoin, nous, profession, de structurer ces offres de soins. On ne peut pas se masquer le visage et dire que ça n'existe pas. Pour autant, il y a un vrai travail qui est nécessaire autour de ça.
On rappelle 700 000 naissances et on s'intéresse à la manière dont vous accouchez, mesdames, dont nous accouchons aujourd'hui en France, entre contes de fées et pour certaines, parcours du combattant. Mais on a beaucoup de témoignages positifs quand même. Stéphanie, on l'a retrouvée. À tout de suite sur Europe 1.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. Comment les femmes accouchent aujourd'hui? Comment travaillent les professionnels autour de la mère et du bébé? Sans oublier le père, on vient d'en parler.
Oui.
Wendy Bouchard.
Alors le père justement, Manuel sur Facebook nous dit que c'est un sage-femme qui l'a accouché et que pour le papa justement c'est très très bien. Ils ont pu confronter leur expérience et rassurer le papa en l'occurrence. Anne-Charlotte Ullmann pour le programme d'accompagnement des mamans et futures mamans, la boîte rose. Vous avez aussi des chiffres justement sur la nécessité d'inclure davantage le papa dans l'histoire.
Oui, tout à fait. Les jeunes mamans nous remontent que c'est un des points d'amélioration en fait de la part du personnel de santé, de porter plus d'attention aux conjoints. 30% des jeunes mamans se disent insatisfaites de cette attention apportée pendant l'accouchement et après.
Oui.
Et c'est des chiffres aussi qui ressortent sur le pot à pot. C'est vrai que autant les mamans,
quand on pose le bébé sur
le bébé est posé sur le ventre,
autant sur le ventre de la maman.
Une grande majorité de mamans a eu droit à ce pot à pot, même s'il est court. Mais c'est seulement 50% des conjoints qui ont réussi à avoir ce moment-là. Et dans la plupart des cas, en fait, il arrive au moment de la césarienne. Mais sur un accouchement par voie basse, au final, ils n'y ont
et
pas vraiment droit.
Parce que vous n'avez pas forcément le temps, Anne-Isabelle, comme sage-femme?
Si, il y a aussi des papas qui
non,
ont
c'est le choix du
peu.
Couple aussi.
Voilà. Ah oui, c'est ça.
Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre à la fois sur la peau de la maman et sur la peau du papa. Il faut qu'ils se répartissent les tâches, qu'ils soient d'accord, il faut qu'ils en aient envie.
Oui.
Mais la place du père a énormément changé ces dernières années et ça va continuer parce qu'il y a plein de projets qui sont en cours dans nos maternités.
Par exemple.
Nous, par exemple, récemment, on a admis les papas tout le temps, 24-24.
Oui.
Donc, ils sont admis en maternité. Ils dorment dans la chambre de leur femme, de leur compagne. Enfin, d'abord, ce n'est pas simplement papa, c'est accompagnant.
Oui.
C'est-à-dire qu'elles peuvent choisir quelqu'un d'autre que le
c'est
père
ça, pour,
de cet enfant.
Pour des grossesses que vous avez suivies seules, par exemple, la maman, quelqu'un de la famille.
Mais parfois, par choix, c'est peut paraître assez étonnant, mais il y a des femmes qui demandent à ce qu'au moment de l'accouchement, par exemple, ce ne soit pas le père de cet enfant, mais la mère, la sœur. Mais
ah c'est, bon
c'est voilà, on est là pour proposer un accompagnant à charge à la femme
et
de choisir.
Il y a un aussi, vous savez
voilà,
ça.
On a,
y
bah, voilà,
vous
on a
fermé mon micro. Que j'arrête
on a parfois la mère, donc la future grand-mère qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, et au dernier moment, hop, elle s'éclipse, le papa arrive. Enfin, on voit tout genre d'arrangement.
Et vous vous adaptez forcément à ça.
Ah oui, évidemment, heureusement.
Et la place de la tierce personne, si on peut dire, dans la salle d'accouchement, la personne doit se tenir à la tête et non pas du côté des jambes.
Oui,
c'est ça.
Oui. Par contre, vous laissez travailler.
La plupart du temps, elle
est
à côté de la tête, elle est là.
Voilà, derrière,
en fonction du type de préparation, elle va se positionner aussi différemment, parce qu'il y en a qui se sont préparés à avoir une position un peu particulière ou un positionnement dans la salle. Mais c'est nous qui faisons l'accouchement la plupart du temps, quand même.
Oui, mais parfois, vous avez quand même le papa qui peut sortir le bébé avec
mais
vous.
Mais oui, ou la maman.
Ou la maman, oui.
Ou la maman, bien sûr.
Quand on a le bras assez
quand
long.
Tout se passe bien, on peut faire plein de choses sympas comme
ah
ça.
Oui. Ah, c'est beau. Bonjour Stéphanie, on vous a retrouvé. Vous qui êtes sage-femme en libéral, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous vouliez témoigner de votre rôle essentiel aussi dans le suivi et l'accompagnement de ces femmes.
Oui, tout à fait, puisque je suis sage-femme libérale à Rambouillet et je voulais un peu représenter ma profession qui n'est pas représentée dans votre émission. C'est un petit peu dommage parce que justement, c'est les sages-femmes.
Si, Anne-Isabelle Melun-Lequin est sage-femme et elle vient de parler des sages-femmes libérales.
Sage-femme, bien sûr. Mais
vous avez raison.
Il n'y a pas de guéguerre entre les hospitalières que j'ai été pendant 15 ans et les libérales. Simplement, je voulais prendre la parole dans la mesure où nous, les sages-femmes libérales, on est un petit peu le fil conducteur entre justement la maison, l'hôpital. On réalise des consultations de grossesse pendant
toute
la grossesse des femmes. On réalise l'entretien du quatrième mois. On travaille à la préparation des mamans et des papas parce que justement, vous parliez de la préparation des papas. Bah, par exemple, moi, dans mes cours, il y a un cours spécial pour les papas.
Oui. Vous pouvez même venir à domicile pour ces cours-là de
bien
préparation.
Bien sûr. Là, vous voyez, ce matin, je suis en train de faire des visites à domicile. Je vais voir des couples qui viennent d'avoir leur bébé. Pour justement répondre à toutes leurs angoisses, leurs questions, surveiller le bébé, surveiller s'il ne fait pas une jaunisse, surveiller son poids, encadrer l'allaitement, etc. Donc c'est vrai qu'on a un rôle majeur justement dans la mesure où les mamans sortent de plus en plus tôt des maternités et qu'elles sont souvent
démunies
quand même. Vous disiez il y a des améliorations pour les césariennes, etc. Simplement, on ne fait pas toujours les services du CRADO, donc de la sécurité sociale, font pas toujours le lien entre la femme qui vient d'avoir une césarienne qui sort à J3 et qui, par exemple, a trois étages pour rentrer chez elle. Ça, c'est assez rare qu'on lui pose la question.
Bien sûr.
Et nous, justement, on est là pour parfois faire le lien avec l'hôpital et dire attention. Cette dame-là, elle habite un immeuble où il y a des escaliers pour rentrer chez elle. C'est pas simple pour elle. Elle n'est pas très aidée à la maison. Donc, on a un rôle majeur, justement, pour faire le lien avec l'hôpital et ce qui se passe à la maison.
Oui,
donc,
très, très juste. Voilà. Et pour vous adapter vraiment aussi à la vie, pour éviter ce saut dans le vide dont je parlais, professeur Nizar.
Mais plus globalement, parce que là, aujourd'hui, on parle de l'accouchement, bien sûr, mais plus globalement, l'hôpital de l'avenir est un hôpital de soins techniques où les gens vont venir pour un geste ou technique ou un moment un petit peu compliqué, et puis retourner à leurs soins de ville. Et c'est là où les acteurs de ville, que ce soit sage-femme, médecin spécialiste, médecin généraliste et tous les autres acteurs, infirmiers, kinés, tout ça, ont un rôle majeur. Nous, finalement, on accompagne un tout petit moment. Et on est là juste pour l'accouchement. L'idée, c'est que la patiente, sa famille, puisse retrouver leur réseau.
C'est ça.
Extra-hospitalier.
Oui, mais voilà, pour ce quoi ce maillage est essentiel, et vous l'aviez aussi souligné, Anne-Isabelle Boulogne. Merci Stéphanie de ce témoignage.
Dans notre étude, on a 4 femmes sur 5 qui sont suivies par une sage-femme à domicile en post-accouchement, et 95% d'entre elles sont hyper satisfaites.
Et c'est fondamental.
On est
rassurés aussi, c'est une question de sécurité et puis d'apprentissage des soins et des gestes. Donc c'est nécessaire et on met cela aussi en avant. A tout de suite avec Frédéric et d'autres témoignages. Hélène, vous nous en direz également, Julie. A tout de suite. Europe 1.
Les professionnels qui vous aident à donner la vie au cours de votre accouchement vous ont-ils suffisamment accompagné? On attend vos témoignages au 39-21.
Eh bien, elle dit trois fois oui, Marie. Enfin, deux fois oui, parce qu'elle a vécu deux grossesses. Elle nous écrit de Besançon qui se sont très bien passées. J'ai eu la chance de rencontrer des professionnels fantastiques et Dieu sait que c'est important pour la maman. Priscilla nous écrit de Tain-l'Hermitage. Pour mon deuxième accouchement, ça s'est mal passé. Je souhaite parler des maisons périnatales. C'est comme une maison de santé. On peut y rester 5 ou 10 jours avec des puéricultrices, des infirmières, des sages-femmes qui nous apprennent beaucoup de choses. Je souhaite savoir pourquoi il n'y a pas plus de maisons périnatales. Vous connaissez ces structures, professeur Nizar ?
Non, toute honnêteté, je ne connais pas les maisons où on reste hospitalisé. Mmh. Je connais les maisons où on va consulter, qui sont des lieux où on prépare, où on consulte, on voit la sage-femme. Et une fois qu'on a accouché dans son centre, on revient et on continue à voir les mêmes sages-femmes. Mais là où on est hospitalisé 5 à 10 jours, j'avoue mon ignorance, en sachant que quand même, l'enjeu, c'est qu'on arrive à s'occuper de son enfant chez soi, oui, dans son environnement, et que le bon accompagnement, c'est l'accompagnement chez soi, dans son lieu de vie.
Et là vivent les sages-femmes. Par exemple, on accouche en clinique ou en maternité, et on repère déjà, juste après l'accouchement, les sages-femmes qui pourraient venir à la maison nous suivre. Hein. C'est comme ça qu'il faut procéder, parce que ça, c'est pareil, on ne nous informe pas de ce qui doit se passer après.
Bah, et l'idéal, ce serait qu'elles aient déjà leur sage-femme depuis le début de la grossesse.
Oui, quand on n'en a pas forcément.
On devrait tout en avoir une.
Ça veut dire que le gynéco devrait aussi nous mettre dans les mains d'une sage-femme ?
Bien sûr.
Ouais, ce qui n'est pas non plus systématique. Hélène nous écrit, j'ai accouché il y a 5 ans et j'en ai été douloureusement affectée. Mon obstétricien a été très violent dans l'épisiotomie. Pour cela, il ne m'a pas prévenue, il a pris le scalpel et il a dit « je taille dans le steak ». Ce sont les mots employés par Hélène. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas, professeur ? Est-ce qu'on fait remonter ce qui s'est passé ?
Oui, il faut qu'elle témoigne. Il faut qu'elle témoigne par écrit à l'administration de l'hôpital. Il faut que les gens témoignent quand ça se passe pas bien. Encore une fois, il faut qu'elle témoigne quand ça se passe bien. Je pense que les générations qui arrivent sont beaucoup plus sensibilisées. Les générations plus anciennes, certains sont sensibilisés, mais ça faisait pas partie de la formation en tant que telle. Alors que là, c'est partout dans les formations, dès le plus jeune âge des étudiants en médecine. Forcément que c'est ce débat et ce combat qui a eu lieu entre certaines patientes et les médecins a eu des conséquences directes sur la façon dont on forme les professionnels et la façon dont les professionnels voient leur métier.
Et ça fait partie.
Tant mieux. C'était un peu violent, mais bon, ça va aller pour le mieux.
C'est bien. Nicolas nous rejoint à l'instant. Le 6 avril, j'ai accouché moi-même mon enfant à l'hôpital de Draguignan. Félicitations, les sages-femmes m'ont laissé faire et c'était un bonheur fou.
Mais oui.
Alors ça, c'est possible aussi parce que c'est-à-dire que quand vous accompagnez bien le couple,
bien sûr,
il n'a pas fait d'épisio.
Non.
C'est-à-dire quoi, j'ai accouché c'est ma femme, c'est lui qui a pris le bébé qui sortait, quoi, c'est ça ?
Voilà, au moment où la tête est passée, les épaules sont en train de sortir, et on dit au papa, bah, tenez, tendez vos mains, je vais vous aider. Et puis ils le prennent et ils le mettent sur le ventre.
Et bah voilà, et c'est un super. Papa heureux. Ouais. Il y a d'autres chiffres, Anne-Charlotte Hulman, pour éclairer notre tour de la question qui pourrait être mis en avant encore sur l'accouchement en France ?
Je crois que ce qui ressort vraiment de cette étude, c'est l'information. Et c'est ce que vous disiez à un professeur aussi, c'est ça qui prime. C'est que plus les femmes sont informées, plus elles sont préparées, mieux elles vivent leur accouchement. Mmh. Plus l'accouchement est rapide et plus elles en sont actrices aussi. Et c'est pareil pour la perception des difficultés un peu post-accouchement. Toutes ces petites ou grandes, après, en fonction des personnes, mais difficultés. Et ça, c'est vraiment un point d'amélioration. Je pense qu'il faut remonter aux professionnels de santé. C'est d'informer plus sur les suites de couches, parce que 50% des femmes se sentent désinformées sur les complications post-accouchement.
Et c'est quoi
c'est
les complications
compliqué, post-accouchement les suites de couches, pardon. C'est immensément compliqué, les suites de couches. Il se passe plein de choses. Il y a un nouveau bébé, on ne le comprend pas, et lui non plus ne comprend pas ce qui s'est passé, forcément. Il y a plein de professionnels qui vont y aller de leur avis de professionnel, mais de leur avis, de leur expérience personnelle aussi. C'est un monde qui est compliqué. C'est pour ça que quand tout se passe bien, le plus vite on est à la maison avec sa sage-femme, un seul son de cloche, une relation particulière avec sa sage-femme, le mieux c'est.
Oui, mais quand on a des angoisses ou quand on n'est pas bien, on n'hésite pas non plus à en parler à sa sage-femme et à son médecin une fois à la
bien
maison.
Sûr. Non, j'aurais bien voulu vous avoir comme sage-femme, Isabelle.
Vous voyez.
Mais en maternité, je tiens à dire qu'on travaille énormément justement sur le fait de n'avoir qu'un seul discours cohérent. On essaye de trouver des nouveaux métiers qui sont des auxiliaires de périnatalité, en fait, qui sont des aides-soignantes et des auxiliaires de puériculture et qui s'occupent du duo maman-bébé et aussi du trio avec le papa. Mmh. Et on y arrive de mieux en mieux. Et ça s'appelle une prise en charge globale.
Très bien. Très bien. Et si vous êtes, mesdames, sur le point d'accoucher ou si vous venez de rentrer à la maison, je vous recommande ce programme. La boîte rose, on vous l'a peut-être d'ailleurs livré à l'hôpital. Julie vous la montre en vidéo sur europe1.fr avec des petits biberons, des produits, de l'eau minérale, des produits de soins pour les bébés. Pour vous aussi, mesdames, comment chouchouter, vous chouchouter davantage et comment bien comprendre ce qui se passe après la naissance, l'accompagnement de rigueur avec ce programme La boîte rose.
Et les petits guides. Hein, et aussi, les petits guides. Les guides Happy Baby évidemment, qui accompagnent la grossesse et la première année de bébé.
Voilà. Merci Anne-Charlotte Huneman. Merci Anne-Isabelle Boulogne pour la maternité de l'hôpital Beaujon à Clichy. Vous êtes sage-femme et professeur Jackie Nizard. Une semaine de sensibilisation à l'accouchement à suivre également dans les maternelles sur France 5. Merci à vous trois.
Merci. Merci
et
beaucoup.
À tout de suite avec un grand monsieur du cinéma, Claude Lelouch.